l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Aspé 94.1.
Bonjour à toutes et à tous, il est 12h à la pendule de Présence, c'est l'heure du Présence Midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et j'ai le plaisir de partager ce moment radiophonique avec vous. J'espère que vous avez bien débuté votre journée sous le soleil, un soleil qui va amener les températures jusqu'à 32-33 degrés en tout cas du côté de Lourdes où se situent nos studios, des températures qui ne grimperont pas au-delà de 28 à 30 degrés ce week-end avec même peut-être l'apparition de la pluie au cours de la nuit de samedi à dimanche. Ça fait plaisir. En tout cas, au sommaire de cette émission, dans quelques instants, la chronique verte de Benoît Guillard qui nous amènera du côté de Puy-d'Arieux. C'est au-dessus de Tarbes, entre Tarbes et Lannemezan. Il y a un lac là-bas et il y a une maison. Elle s'appelle Maison France Nature Environnement. Nous aurons le plaisir de découvrir cette structure. Puis ce sera l'heure du coup de cœur en librairie avec le frère Martin. Il sera au micro de Anne-Rose Jankovic et ils nous présenteront le livre Le Jardin Anglais, un ouvrage écrit par Charles Wright. La chronique solidaire de Anne Deloye, solidairement vôtre, elle nous amènera à la découverte aujourd'hui de Christophe Manceau qui est diacre pour le diocèse de Tarbes et Lourdes et il est au service de la diaconie dans ce diocèse. Et enfin, les auteurs pyrénéens, ce sera Gustave Flaubert aujourd'hui qui nous fera découvrir la manière dont il a découvert Nobel Pyrénées et ce sera proposé par Catherine Albrecht. Voici les titres des informations de ce jour.
Bonjour à tous. En Aveyron, les pompiers restent vigilants après deux incendies. Près de 28 hectares de végétation sont partis en fumée. La chaleur et la sécheresse maintiennent un risque important de nouveaux départs de feu. Dans le Tarn, deux nouveaux cas de chikungunya ont été détectés près de Mazamé. Des opérations de démoustication sont prévues pour limiter la propagation de la maladie. À Toulouse, plusieurs personnes ont consulté les urgences pour des problèmes aux yeux après l'éclipse solaire de mercredi soir. Certains patients ont notamment ressenti des brûlures ou des troubles de la vision. En Ariège, les autorités cherchent un jeune ours qui a chargé un éleveur. Des balles de caoutchouc pourront être utilisées pour l'effrayer et lui faire retrouver la peur de l'être humain. Et enfin, dans les Pyrénées, une éleveuse recherche toujours une centaine de brebis disparues. La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver le troupeau. Voilà pour les titres. Bonne journée à tous sur Radio Présence.
Eh bien, merci Christine Roux que nous allons retrouver dans une demi-heure pour développer ces titres. Dans l'immédiat, eh bien, un petit peu de musique juste avant de retrouver la chronique verte de Benoît Guillard.
Meglio che e ci troviamo poi a fare festa, a bere, a ridere, a danzare insieme a noi, lasciando che la vita va. E se ti senti giù, parliamo amico dai, c'è sempre un modo per tirarsi su. Credici, credi a me, lasciamo che la vita va. Scaldando il cielo su di noi, il cuore sta danzando a ritmo nuovo, un nuovo amore.
À Aurignac, 94.1.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, j'ai fait le choix de me rendre dans les coteaux, plus exactement à Puy-d'Arieux. Puy-d'Arieux, village situé à proximité de Castelnau-Magnoac, ou plus exactement au cœur du triangle entre Trie-sur-Baïse, Castelnau-Magnoac et Galant. Je suis allé à Puy-d'Arieux parce que Puy-d'Arieux a la chance d'avoir un lac qui est le sujet de beaucoup d'animations et a vu s'instituer petit à petit, près de ce lac, une maison, qui est la maison de la nature et de l'environnement. Et donc j'ai fait le choix d'aller rencontrer la chargée d'animation de la MNE, Héloïse Chanfray, et donc qui va nous parler un petit peu de ce lieu remarquable qu'est la Maison de Nature et l'Environnement à Puy-d'Arieux. Bonjour Héloïse.
Bonjour, donc je suis chargée de communication et je me charge également de tout ce qui est bien sûr de la communication interne et externe de notre association.
Alors Héloïse, deux mots sur la MNE, peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'est la MNE, ce qu'elle propose.
Alors la MNE est une association loi 1901 qui existe depuis 1995, donc cela va bientôt faire 30 ans que l'association existe. Notre association est une association d'éducation à l'environnement. Auprès de jeunes publics, notamment les scolaires, mais également auprès du grand public. On est une association avec le pôle arbres et paysages, c'est-à-dire qu'on accompagne des collectivités, des particuliers, des agriculteurs à planter des haies. On est aussi dans l'accompagnement de territoires des Hautes-Pyrénées sur des projets de développement durable. On a également des jardins à la MNE qui nous permet en fait d'être en circuit court au sein de notre gîte et notre restauration, puisque notre gîte accueille toute l'année des scolaires mais également des particuliers.
Alors justement, si je suis venu ici, Héloïse, c'est parce que j'ai vu que vous alliez aborder un sujet qui m'est cher, qui est l'agroécologie, et que vous avez donc ces hivernales qui s'organisent chaque année, je suppose, et donc faire découvrir aussi à nos auditeurs un petit peu ces animations fortes que vous proposez au territoire.
Oui, alors les hivernales, c'est pour bientôt, c'est du 24 janvier jusqu'au dimanche 26 janvier. Ce sera la 29e édition. Cette année, on a souhaité aborder donc l'agroécologie comme thématique, on va dire, chapeau du festival. mais on abordera également des thématiques comme l'eau, comme la biodiversité. Le programme donc sera établi en fonction de ces trois thématiques.
Une date peut-être, puis comment on s'inscrit, et puis une petite vision sur le programme.
Alors effectivement, donc à partir du vendredi soir, on vous propose une conférence concert avec une compagnie Ornithophonix. Donc là, c'est sur inscription. Donc je vais vous donner les coordonnées. Donc ce sera soit par téléphone au 05 62 33 61 66 ou bien par adresse mail à accueil@maisondelanature65.com. Donc cette conférence est à prix libre. Après, vous pouvez donc retrouver le festival le samedi 25 et dimanche 26. Donc là, vous aurez donc plusieurs conférences, des expositions, des films, des sorties, des ateliers, aussi bien pour les grands que pour les petits. Les sorties et les ateliers sont sur inscription également. Possibilité d'hébergement dès le vendredi soir et de la restauration faite par nos équipes donc pour tout le week-end.
Alors pour s'inscrire, il faut aller sur internet, je suppose. Il faut téléphoner. Vous avez donné un numéro de téléphone, il y a une adresse mail.
Alors vous pouvez donc bien sûr nous appeler donc au numéro que je vais pouvoir vous redire, donc au 05 62 33 61 66, nous écrire donc à l'adresse mail accueil@maisondelanature65.com et retrouver donc l'intégralité du programme sur notre site internet www.maisondelanature65.com.
Alors j'en profite puisqu'on est là, je sais que vous travaillez aussi beaucoup avec les comme vous l'avez dit, avec les collectivités territoriales, avec les écoles, et donc peut-être donner une petite aperçu un petit peu des activités qui sont proposées par exemple aux enfants qui viennent avec les écoles.
Alors je vais en profiter également puisque cette année, j'ai oublié de le mentionner, mais le vendredi 24 est une journée qui sera destinée aux scolaires. Donc on a sollicité des écoles environnantes à la MNE pour venir faire des ateliers d'une durée de 30 minutes sur des thématiques comme la nature recycle ses déchets, crée ton lombricarium, la peinture végétale, la teinture végétale. Donc ce sont des ateliers qui seront proposés le 24 aux enfants, mais également tout au long de l'année. Donc lorsqu'une école nous contacte, on fixe avec elle la thématique sur laquelle elle souhaite travailler et on lui propose un panel d'activités en lien.
Alors pour revenir sur le programme des hivernales, j'ai vu qu'il y avait un agronome illustre que tout le monde connaît qui vient justement parler de l'agroécologie et faire le lien avec l'alimentation. Pourquoi cette invitation et qu'est-ce que vous espérez?
Alors oui, effectivement, on a sollicité monsieur Marc Dufumier donc pour participer à cette 29e édition. Donc il a répondu favorablement à notre demande. Il sera présent. Au vu de la thématique, c'était un choix de la structure de pouvoir inviter Marc Dufumier. Alors, durant sa conférence, donc sa conférence aura lieu le samedi 25 à 14h, va permettre, on va dire, de dresser un tableau de l'agroécologie, mais également en abordant les thématiques de la gestion de l'eau et de la biodiversité.
Alors on est inscrit effectivement dans l'alimentation durable et dans le territoire autour de ces événements. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que moi je suis à vos côtés, donc vous êtes jeune, hein. Et donc je m'intéresse toujours aussi au parcours des gens que j'interroge. Donc votre parcours vous a amené jusqu'ici. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce que vous y trouvez dans votre projet de vie tout simplement? Et puis qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur?
Oula. Alors, moi, je suis là depuis 2 ans. Je souhaitais faire de la communication, mais pour une structure qui porte mes valeurs. Et j'ai trouvé en la MNE une association avec des valeurs au plus proche de la nature, au plus proche de valeurs auxquelles j'aspire. Concernant mes projets, alors mon projet, donc le travail que j'effectue à la MNE s'inscrit dans mon projet de vie. J'apprends tous les jours, puisque je ne suis pas spécialement issue, d'une formation ni naturaliste, autour de l'environnement. Donc voilà, j'ai trouvé en la MNE une structure qui puisse à la fois me permettre de monter en compétences. Et puis, mes aspirations futures sont, continuer à pouvoir, apporter ma petite pierre à l'édifice à l'association et puis au territoire, puisque je compte bien sûr m'installer dans le territoire.
Alors très bien, merci. Et puis pour avancer dans cette réflexion, dans le contexte, vous allez parler de gîtes d'hébergement. Donc ça veut dire que n'importe quel auditeur qui souhaite venir à la rencontre de cette association et de tout ce que vous y proposez peut venir réserver pour être hébergé et se restaurer.
Alors oui, après on est un gîte de groupe, donc suivant les périodes, le gîte est ouvert pour 10 personnes. Après, sur des périodes creuses, il est possible de pouvoir être hébergé à on va dire un nombre moindre, mais tout à fait possible de nous écrire, de nous appeler pour réserver et donc hébergement, restauration sur place.
Alors les activités que vous proposez sont proposées effectivement, vous l'avez dit, aux écoles, aux collectivités. Est-ce que par exemple des entreprises qui souhaitent venir faire un petit peu un break et respirer peuvent venir à la MNE ?
Oui, oui, de plus en plus d'entreprises qui souhaitent faire soit des séminaires, soit des réunions sur plusieurs jours, nous contactent pour pouvoir avoir accès à nos salles, puisqu'on a des salles avec une capacité de 70 personnes, et pouvoir directement donc profiter du site pour l'hébergement, la restauration et les balades autour de la MNE.
Donc c'est très large et très vaste hein, dans les activités. La MNE, c'est important sur ce territoire parce que c'est un phare, un repère très fort dans un monde qui a besoin de réfléchir et de changer son chemin. Et donc je trouve que c'est très important d'avoir un lieu comme celui-ci pour se rapprocher de la nature, se rapprocher le plus possible de ce qu'est la véritable richesse de ce territoire. Et moi, j'invite tous nos auditeurs à venir... Si vous passez par là, vous arrêtez à Puy-d'Arieux, à la MNE, allez voir un petit peu ce magnifique lac, allez à la rencontre des animaux, des oiseaux, au jardin, les arbres. Voilà, tout est parfait, tout est beau et tout est inspirant. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil. On le rappelle pour les auditeurs, donc les hivernales, fin du mois, et donc inscription, vous allez sur le site, ce sera le plus simple, MNE, vous allez sur le site pour vous inscrire, ou sinon vous appelez. Voilà. Merci beaucoup Héloïse et bonne hivernale. Au revoir.
Au revoir.
Bien sûr, vous l'aurez bien compris, hein, il s'agit d'une rediffusion puisque c'est plutôt les estivales que les hivernales. En attendant, mais vous pouvez toujours vous y rendre parce que c'est un lieu pour y avoir été personnellement fort agréable en famille. Vous avez une balade qui fait tout le tour du lac, qui fait quelques kilomètres. C'est très agréable. Un bon moment à passer en cet été. On continue en musique juste avant de retrouver le coup de cœur en librairie avec Anne-Rose Jankovic et le frère Martin. Voici Bernard Lavillier.
Tous abandonnés, une flamme orange dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons en sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir. Des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier voudraient travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore.
Présence à Catus 92.5.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose, bonjour chers auditeurs.
C'est notre rentrée littéraire, on peut dire ça comme ça, puisque en ce début du mois de septembre, eh bien avec vous, nous reprenons les chroniques littéraires. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Radio Présence après ces deux mois d'été où vous nous avez, on s'en souvient, donné des idées de lecture un petit peu pour s'évader. Alors on va rentrer tout doucement, puisque le livre que vous nous proposez, l'ouvrage que vous nous proposez aujourd'hui, c'est encore un petit peu pour s'évader. Hein. C'est un livre, Le Jardin anglais, d'un auteur français qui a des origines anglaises et qui va partir à la découverte de ses origines. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Oui, tout à fait. Alors, Charles Wright est connu par beaucoup de lecteurs puisqu'il a écrit il y a quelques années Le Chemin des Estives, où il raconte ce long périple qu'il fait d'Angoulême à Notre-Dame-des-Neiges avec un co-novice. Et donc, ce livre a eu beaucoup de succès. Il dit lui-même qu'il a beaucoup de mal à écrire un autre livre. Donc, il a fait cette narration où, avec son père, il revient en Angleterre sur les pas de tout un long voyage en voiture où ils reviennent sur les pas de leur famille, des lieux où son père a vécu et où les personnes de sa famille ont vécu.
Donc il part seul avec son père, mais il emmène d'autres membres de la famille.
Après, il y a d'autres membres de la famille qui sont avec eux, et à travers ce chemin sur les lieux où ont vécu ses ascendants, finalement, il découvre son père, il le comprend mieux, et il découvre la société anglaise où, en fait, il n'a jamais vraiment vécu. Et donc, ce qui est intéressant, voilà, c'est une découverte familiale, une découverte des origines et une découverte de l'Angleterre dans ses paysages et puis à la fois dans sa façon de vivre.
Ouais, alors, certainement, du coup, des descriptions de paysages, de cadres de vie, peut-être même de ce qu'est la société anglaise.
Oui, de très belles descriptions, surtout dans la campagne près de Bristol, qui est un endroit magnifique où lui-même, même s'il le sait, il est vraiment saisi et il y a vraiment des descriptions. Il a une écriture très fluide, mais qui rend beaucoup d'émotions et qui nous fait rentrer vraiment dans ces paysages. Et il y a aussi pas mal de citations, de tableaux, de livres vraiment qui nous aident à vraiment apprécier et goûter ces moments où lui-même, l'auteur en voyage, se laisse surprendre et se laisse vraiment toucher par ce qu'il voit.
Est-ce qu'il y a de la place pour l'imagination, puisque s'il y a beaucoup de descriptions, s'il nous raconte aussi sa vie, celle de son père, on imagine un récit très, alors d'abord un peu autobiographique et puis très réaliste. Est-ce qu'il y a une part pour l'imagination quand même ?
Oui, parce que tout n'est pas décrit. Même lui-même, il se pose des questions. Comment c'était avant ? Voilà, il y a beaucoup de portes ouvertes pour imaginer. Et puis on peut aller soi-même voir aujourd'hui grâce au numérique, on peut aller voir quelques beaux paysages où il est passé, quoi. C'est ça qui est intéressant.
C'est presque un travail de reporting, on pourrait dire qu'il y a un peu de reportage derrière tout ça.
Oui, il y a une part de reportage, mais surtout, quand même, le point d'accent, c'est quand même la découverte de ses ascendants, de sa famille et de ce qu'il a en fait peu connu jusque-là, quoi. Et je pense que cette découverte qui est intéressante, avec une famille, avec des ruptures, des moments qui ont été difficiles pour ses grands-parents et ses arrière-grands-parents, et du coup il se plonge vraiment dans cette histoire et il comprend mieux qui est son père. Et même s'il avait beaucoup de clichés sur la société anglaise, sur la façon qu'ils ont de vivre, finalement il découvre comment ils vivent et il en comprend mieux le sens, et c'est vraiment très éclairant sur beaucoup de clichés que certains peuvent avoir des réalités d'outre-Manche.
Quel est le ton donné à ce récit, puisqu'il raconte la découverte d'un pays, de sa famille aussi? Est-ce que c'est de la joie, c'est de la surprise, c'est de la mélancolie?
C'est à la fois léger et il y a des moments, je dirais, graves et denses. Voilà, quand il découvre qu'il y a des personnes de sa famille qui ont eu des vies très difficiles, quoi.
Oui.
Mais à la fois, c'est raconté avec beaucoup de pudeur et c'est pas une écriture pesante. Alors à la fois, vous avez justement les dialogues avec son père et une sœur qui est dans la voiture. Mais après, vous avez aussi une part de narration et il raconte ce qui s'est passé.
Oui, donc c'est pas tellement une introspection non plus.
C'est
un style d'écriture auquel Charles Wright est habitué.
Ben oui, justement, je pense que ce récit le met un peu dans la même veine que Le Chemin des Estives, où il racontait cette marche à pied à deux pendant plusieurs semaines. Et là, finalement, aussi, c'est un peu dans cette veine. Et il nous livre ses difficultés de continuer à écrire, puisque ce livre a eu tellement de succès qu'il en a un autre sous le coude et il le corrige et recorrige. Et finalement, il a du mal à réécrire et à un autre livre. Et là, du coup, la façon de cette rencontre et de ce récit lui a permis d'écrire ce livre qui est un vrai bonheur et qui peut nous éclairer, voilà, sur la façon dont on connaît nos ascendants, notre famille, et voilà, mieux connaître des fois son père, sa mère.
Voilà, puis en plus, ce qui est agréable aussi, c'est que il y a cette itinérance, de ville en ville, c'est vraiment un voyage en voiture de ville en ville. Ça fait encore un petit peu penser aux vacances, voilà.
C'est aussi
une promenade à travers l'Angleterre.
C'est une invitation à la découverte de l'Angleterre, sûrement. Voilà.
Donc c'est un ouvrage paru aux éditions Albin Michel, 235 pages. Bon, faut s'y atteler, mais c'est lisible facilement, on imagine, puisque vous l'avez choisi pour commencer cette année littéraire avec nous, frère Martin. C'est un livre, évidemment, que vous avez en rayon à l'abbaye Notre-Dame de Tours, au magasin.
Et que vous trouverez facilement, puisque c'est un livre Albin Michel qui est de littérature plutôt générale et que vous trouverez facilement.
Merci beaucoup, frère Martin. On vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle chronique.
Merci à tous et bonne journée.
Frère Martin avec Anne-Rose Jankovic. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée sur Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Voici Sting.
He deals the cards as a meditation. He plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. Play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand.
while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Sur présence. Il est 12h, passé de 33 minutes. Excellent appétit. À vous tous qui nous écoutez sur les fréquences de présence.
Présence à Auch, 89.6.
Et voici le journal.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, les pompiers restent sur leur garde en Aveyron après deux incendies. Au total, près de 28 hectares de végétation sont partis en fumée. Les secours ont dû intervenir dans des secteurs difficiles d'accès, ce qui a rendu leur travail plus compliqué. Avec les fortes températures et la sécheresse, la végétation reste particulièrement sèche. Les pompiers appellent donc à la prudence pour éviter de nouveaux départs de feu. Dans le Tarn, deux nouveaux cas de chikungunya ont été détectés dans le secteur de Mazamé. Cette maladie qui peut notamment provoquer de la fièvre et des douleurs est transmise par les moustiques tigres. Des opérations de démoustication sont prévues dans les zones concernées afin de limiter sa propagation. Les habitants sont également invités à supprimer les petites réserves d'eau autour de leur logement. Coupelles, seaux ou récipients laissés dehors peuvent en effet devenir des lieux où les moustiques se reproduisent. À Toulouse, plusieurs personnes ont consulté les urgences pour des problèmes aux yeux après l'éclipse solaire de mercredi soir. Certains patients ont ressenti des brûlures ou remarquer des points dans leur champ de vision après avoir observé le soleil. Même pendant une éclipse, le regarder sans une protection adaptée peut provoquer des blessures aux yeux. Les spécialistes recommandent donc de consulter rapidement en cas de douleur ou de problème de vue qui ne disparaîtrait pas. En Ariège, les autorités veulent désormais éloigner un jeune ours qui s'est approché trop près de l'être humain. Cette décision fait suite à une charge contre un éleveur. Le but est de faire retrouver à l'animal la peur de l'homme et d'éviter qu'une situation similaire ne se reproduise. Une fois l'ours retrouvé, les équipes pourront notamment utiliser des balles en caoutchouc pour l'effrayer et le pousser à s'éloigner. Il ne s'agit donc pas de tuer l'animal, mais de modifier son comportement. Et enfin, dans les Pyrénées, une éleveuse cherche toujours une centaine de brebis portées disparues. Face au nombre important d'animaux manquants, la gendarmerie a lancé un appel à témoins. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le troupeau. Toute personne qui aurait aperçu les brebis ou qui disposerait d'une information permettrait de localiser et est invitée à contacter les forces de l'ordre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité régionale. Très bon vendredi à tous.
Et merci à Clémence Roux pour ces informations tout au long de cette semaine et nous la retrouverons dès la semaine prochaine. À suivre sur Présence, eh bien, les auteurs dans les Pyrénées. Une chronique proposée par Catherine Albrecht. Nous la retrouverons aux alentours de 12h50 et nous parlerons de Gustave Flaubert. Dans les médias, nous retrouvons solidairement votre l'émission solidaire de Anne Deslois.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Solidairement Vôtre, où vous le savez, nous donnons la parole à celles et à ceux qui font vivre la solidarité, la fraternité et surtout vivre la solidarité, c'est vrai je le dis, mais au quotidien. Alors notre invité aujourd'hui est Christophe Manceau. Bonjour Christophe.
Bonjour Anne, bonjour à tous et à toutes.
Alors certainement que certains de nos auditeurs vous connaissent Christophe, puisque depuis 1999, vous avez été ordonné diacre pour le diocèse de Tarbes-Lourdes.
Oui, c'était à Auxin et ça fait 25 ans.
Et c'était avec quel évêque déjà, il y a 25 ans ?
C'était Monseigneur Perry qui m'a ordonné.
D'accord. Nous allons faire un petit tour d'horizon parce que il y a quelque temps, Monseigneur Mika vous a donné la responsabilité du pôle diaconie pour le diocèse. Nous aurons l'occasion de faire une émission spéciale pour découvrir le service de la diaconie. Aujourd'hui, Christophe, c'est plus votre témoignage personnel, votre témoignage professionnel et votre témoignage de foi que nous allons entendre. Commençons déjà peut-être par votre parcours de vie. Et puis, qu'est-ce qui vous a amené à être diacre ?
Alors, ce qui m'a amené à être diacre, mais d'abord, chemin de un petit sentier, je dirais, de joie, de difficulté et puis d'irrégularité. Parce que le Seigneur écrit droit avec des lignes courbes. Mais ce que j'ai essayé de prendre au sérieux, ben c'était mon baptême. Voilà, c'est un peu moi le socle, petit à petit, hein, ça s'est fait. Et puis une attention particulière à l'Évangile, cette parole unique qui nous est adressée et réservée à chacun. Déjà au catéchisme, quand j'étais petit, c'était l'époque des questions-réponses, mais quand on me parlait de la vie de Jésus, de ses paraboles, tout ça, ça m'intéressait, ça m'accrochait.
C'est quelque chose qui vous touchait particulièrement.
Voilà, déjà tout petit, voilà.
Mais vous n'aviez pas spécialement formulé l'envie de devenir prêtre quand vous étiez petit ou plus grand, adolescent? Alors, c'était pas ça qui vous attirait.
Alors, à un moment donné, si, je me suis quand même posé la question, mais de façon assez courte, je me suis demandé si la prêtrise ou être frère des écoles chrétiennes, parce que j'avais été dans des établissements lassalliens, voilà. Mais je me souviens, c'était dans le Tarn, on était trois jeunes, et moi, de mon côté, j'ai décidé de... Non, c'était pas ma vocation.
Alors, voilà. Maintenant, vous êtes retraité, mais professionnellement, quel a été votre parcours assez rapidement?
J'ai été, au départ, je suis soignant, j'ai été infirmier, après je suis devenu cadre de santé, et voilà, donc j'ai travaillé à la clinique de Lormeau, à l'hôpital de Lourdes, à l'hôpital d'Astugue, et puis à la fin, j'étais un peu sur tous les hôpitaux du département, parce que je travaillais sur la protection des données des malades.
Alors, dans votre vie quotidienne, aussi bien du temps où vous étiez encore professionnel de santé, mais aussi en tant que père de famille, époux, maintenant grand-père aussi, comment vous avez toujours concilié votre engagement de diacre et votre vie ? Votre vie de famille, votre vie professionnelle.
Alors, la vie de famille était quand même, pas première, mais était importante. Le sacrement de mariage, il était premier. Voilà, donc, et puis la vie professionnelle me prenait beaucoup de temps aussi. Donc c'est vrai que c'était un peu difficile de gérer tout ça, mais on faisait au mieux. Et puis, en plus, je travaillais dans des établissements publics, avec voilà, une certaine réserve, voilà. Mais ce qui ne m'empêchait pas de témoigner. Parce que ça savait que j'étais diacre. Pour une petite anecdote, en pleine intervention chirurgicale, le médecin m'a dit « Alors, monsieur Mansour, vous croyez en Dieu ?» Voilà, on avait... En plus, c'était pose d'un pacemaker, donc le patient était conscient. Donc voilà, on a eu un petit échange court, parce que je ne voulais pas... voilà.
Et je suppose que lorsque vous avez accepté de devenir diacre, eh bien votre épouse était aussi de la partie. Ça veut dire qu'elle avait fait aussi ce cheminement avec vous, elle vous a accompagné. Elle a, quelque part, elle vous a aidé aussi à dire oui.
Tout à fait. Quand j'ai commencé à me poser des questions, des petites questions sur le diaconat, j'ai exposé à mon épouse... ce petit projet, à l'époque, il était tout petit. Elle l'a reçu tout à fait sereinement. Et du coup, quelques temps après, j'ai été voir mon curé de paroisse pour lui dire, en pensant qu'il allait me dire « Reviens dans 6 mois, non, mais... » Il me dit « Non, non, va voir ton évêque de suite. Ça va lui faire plaisir, ça va lui changer de... » Voilà. Et donc... bon, j'ai attendu un petit peu quand même, parce que je ne m'attendais pas à cette réponse, et puis j'y suis allé.
Et à ce moment-là, vous aviez déjà un engagement au niveau de la vie de la paroisse ou d'un mouvement au service d'église?
Oui, avec ma...
Personnellement, vous aviez déjà un engagement quand même.
Oui, avec ma femme, on avait fait le catéchisme tous les deux. On avait fait, voilà, j'étais très investi dans le scoutisme, voilà, il y avait plein de choses que je faisais.
C'était assez naturel, disons, d'aller, du coup, d'accepter de devenir diacre à un moment donné.
Voilà, en tous les cas, de se poser la question et de remettre tout ça dans les mains de l'Église. Je me disais, si ça doit se faire, ça se fera, et peut-être pas.
Et voilà, c'est bien. Et alors, vous avez été aussi, pendant quelques temps, aumônier de la maison d'arrêt de Tarbes.
Oui.
Alors ça, c'est un service, une mission très très forte, quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu auprès de ces personnes qui vivent quand même dans un milieu très fermé?
Voilà, j'étais bénévole, aumônier bénévole. J'étais avec Elisabeth Lemire, qui était l'aumônier titulaire. Voilà, et pour moi, c'est quelque chose auquel j'avais pensé depuis longtemps, mais j'hésitais beaucoup. J'avais une petite appréhension, peut-être. Et le fait de rencontrer Elisabeth, eh ben, j'ai emboîté le pas et elle m'a accompagné. Et c'est vrai que j'ai vécu des choses très fortes, belles, mais très fortes, parce que c'est quand même un monde où il y a quand même de la violence. Mmh. Voilà, et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et voilà, qui m'a remis. Et bien souvent, je me suis dit, si tu avais vécu ce qu'ils ont vécu souvent dans leur enfance, peut-être que tu serais à leur place. Oui. Voilà.
Alors, c'était dans le cadre de l'aumônerie catholique. Vous aviez des rencontres mensuelles ou plus régulièrement? Comment ça se passait, le lien avec les détenus qui souhaitaient faire partie de ce groupe de l'aumônerie?
On les invitait tous les dimanches à soit une rencontre, soit la messe. Et voilà, donc moi, j'ai fait très très peu de parloirs, des rencontres, voilà, puisque je travaillais. Mais par contre, tous les 15 jours à peu près, on avait un roulement par équipe de 2 et on se retrouvait avec ces personnes.
Donc on imagine des partages d'évangiles,
voilà.
Des choses assez prenantes, quoi.
Voilà, alors façon, bon, des fois ça décoiffait un petit peu, hein. Mais c'était il y avait une démarche.
Oui.
Mais...
Vous pourriez nous dire qu'est-ce que ces rencontres ont changé un petit peu en vous, dans votre regard sur la vie?
Ce que ça a changé sur moi, c'est plutôt le regard sur les plus démunis. Voilà, une certaine... Et à leur contact, peut-être gagner en humilité. de les rencontrer, ben, ça vous remet en cause et ça vous fait gagner en humilité, oui.
Est-ce que dans votre ministère diaconal, il y aurait un moment marquant, là, ça fait plus de 25 ans que vous êtes diacre, dans un quart de siècle, est-ce qu'il y a un moment particulier qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment, vous pourriez partager avec les auditeurs?
Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un. J'étais ordonné le samedi, et le lundi, bien sûr, je travaillais. Et donc, je suis revenu au boulot. Et lorsqu'on est soignant, on est entraîné dans une course un peu effrénée. Et je me disais intérieurement, en allant travailler, « Seigneur, laisse-moi prendre un peu mes marques en tant que diacre maintenant. » Ça faisait 48 heures que j'étais diacre. Et donc je suis arrivé, je travaillais en réanimation à Lourdes. Et dans le service, il y avait un monsieur, un pèlerin, qui était venu exprès sur Lourdes et qui malheureusement a fait un accident vasculaire massif devant la grotte. Voilà, et donc il s'est retrouvé dans notre service pendant plusieurs semaines, sous respirateur. Il était endormi, sédaté, comme on dit. Voilà, et malgré plusieurs ajustements thérapeutiques, eh bien, toutes les tentatives de sevrage de ce respirateur ont été un échec. Et donc, avec un consensus médical et en accord avec la famille qui était très, je dirais, presque sereine, eh bien, il a été décidé d'arrêter la thérapie, et voilà. Et donc, le lundi matin, ben, je me suis retrouvé à accueillir cette famille et à les conduire dans cette chambre pour qu'ils disent au revoir à leur papa, à leurs parents. Et puis, on a prié ensemble. On s'est tourné vers Marie, puisque lui avait fait une démarche mariale. Et puis, au bout d'un moment, eh ben, j'ai fait quelque chose que je ne pensais pas faire. J'ai ôté toutes les alarmes pour que ce soit un peu moins stressant pour la famille. Et j'ai arrêté le respirateur. Voilà. Et pour moi, ça a été une expérience très forte et très... J'avais envie de dire après au Seigneur, ménage-moi un peu, Seigneur, parce que là, tu vas fort, là. En plus, c'est un service de réa, tout est vitré. L'équipe, on savait que j'étais en démarche, ils savaient peut-être pas que j'avais été ordonné 24 heures avant, mais ils connaissaient mes convictions. Et donc, même si l'équipe s'est fait très discrète, ils nous ont vu prier, ils nous ont vu, voilà. Et ça a été pour moi un moment assez fort, oui. Voilà.
Merci Christophe pour votre témoignage si émouvant. Nous avons bien conscience que tout au long de votre vie professionnelle, tout en étant justement avec vos convictions de diacre, vous avez dû vivre des moments très forts et accompagner des familles dans des moments pas faciles. Merci. Alors, notre émission se termine. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle émission sur la diaconie du diocèse. À très bientôt.
Merci Anne.
Et dans quelques instants, nous allons retrouver Catherine Albrecht pour sa chronique Les auteurs pyrénéens. Aujourd'hui, ce sera Gustave Flaubert, juste après Francky Wally.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. Let me know that it's real. You're just
Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
L'Occitanie, un doux nom qui, depuis des siècles, a inspiré nombre d'écrivains célèbres. Séduit par ses paysages, son art de vivre, son histoire, ses habitants. Écoutez, voyagez, rêvez, admirez avec, aujourd'hui, Gustave Flaubert. En décembre 1839, l'élève Gustave Flaubert est renvoyé du lycée de Rouen pour avoir fomenté une rébellion contre le nouveau professeur de philosophie. Il va devoir préparer le baccalauréat seul à la maison. Encouragé par ses parents qui lui promettent un voyage, le jeune Gustave obtient son diplôme en août 1840 et part pour les Pyrénées, puis la Provence et la Corse, accompagné d'un ami de la famille, le docteur Cloquet. Avant son départ, son père lui donne ce conseil. Vois, observe et prends des notes. Ne voyage pas en épicier ni en commis voyageur. Ce périple de plus de 2 mois lui donne l'occasion de traverser une partie des Pyrénées, du Pays Basque à Luchon, d'où il décide de monter au belvédère du port de Vénasque. Au-delà de l'hospice de France, le sentier escarpé semble s'envoler vers un alignement de sombres parois qui ferment un cirque sans issue. Mais soudain, une fine échancrure dans la barrière rocheuse vous jette aux yeux, plein sud, baigné par le ciel espagnol souvent lumineux, le massif de la Maladeta, couvert de glace et coiffé par l'Aneto. Voilà l'Espagne, quelle fresque! Il n'en fallait pas plus pour faire frémir la plume du jeune Flaubert et l'envoyer jusqu'aux Amériques. Quand on va du port de Vénasque, on traverse d'abord une grande forêt de frênes et de hêtres qui couvrent 2 montagnes qui se regardent face à face. C'était le matin, et les lueurs du soleil, le vent dessinaient les ombres des branches sur la mousse et sur les feuilles jonchées par terre. À partir de l'hospice, la route monte en zigzag et devient de plus en plus cabreuse, ardue et aride. On tourne à chaque instant pour faciliter la montée. Et si on regarde derrière soi, on s'étonne de la hauteur où l'on est parvenu. L'air est pur, le vent souffle et le vent vous étourdit. Les chevaux montent vite, donnant de furieux coups d'épaule, baissant la tête comme pour mordre la route et s'y hisser. À votre gauche, vous apercevez successivement 4 lacs enchâssés dans des rochers, calmes comme s'ils étaient gelés. Point de plantes, pas de mousse, rien. Les teintes sont plus vertes et plus livides sur les bords, et toute la surface est plutôt noire que bleue. Rien n'est triste comme la couleur de ces eaux qui ont l'air cadavéreuses et violacées, et qui sont plus immobiles et plus nues que les rochers qui les entourent. De temps en temps, on croit être arrivé au haut de la montagne. Mais tout à coup, elle fait un détour, semble s'allonger, comme courir devant vous, à mesure que vous vous montez sur elle. Vous vous arrêtez pourtant, croyant que la montagne vous barre le passage et vous empêche d'aller plus avant, que tout est fini, qu'il n'y a plus qu'à se retourner pour voir la France. Mais voilà que subitement, et comme si la montagne se déchirait, la Maladeta surgit devant vous. À gauche, toutes les montagnes de l'Auvergne, à droite la Catalogne, l'Espagne, là, devant vous. Et l'esprit peut courir jusqu'à Séville, jusqu'à Tolède, dans l'Alhambra, jusqu'à Cordoue, jusqu'à Cadix, escaladant les montagnes et volant avec les aigles qui planent sur nos têtes. Ainsi que d'une plage de l'océan, l'œil plonge dans l'horizon, suit le sillage des navires et voit de là, dans la lointaine Amérique, les bananiers en fleurs et les hamacs suspendus aux platanes des forêts vierges. À voir tous les pics hérissés qui s'abaissent et montent inégalement, les uns apparaissent derrière les autres, tous se pressant, serrés et portés au ciel dans des efforts immenses, on dirait, des vagues colossales d'un océan de neige qui se serait immobilisé d'un coup. À travers le regard et les mots de Gustave Flaubert, nous avons pu apprécier son talent et son émerveillement devant notre belle montagne. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée, inspirant tous mes récits, intitulée « Mots et merveilles d'Occitanie ».
Merci à Catherine Albrecht pour ses chroniques. À suivre sur Radio Présence, les informations nationales et internationales avec la rédaction française de Radio Vatican. Nous serons en direct de Rome pour cela et ce sera à 13h. Puis viendra l'heure de la prière à 15h30, vous le savez, avec la méditation du chapelet en direct de la grotte au sanctuaire de Lourdes. Toujours dans la prière, et bien demain, vous le savez, c'est le 15 août, grande fête, l'Assomption de la Vierge Marie qui est fêtée comme il se doit au sanctuaire de Lourdes. Nous vous proposons donc la retransmission de la messe qui aura lieu sur la prairie face à la grotte de 10h à 12h demain matin sur Radio Présence. À toutes et à tous, excellente journée, très bon week-end et très belle fête de l'Assomption.
Here, I look in the drugstore. Is it here? No, it don't come here no more. Well, I tell you what, I saw him. He was sitting behind us down at the penitentiary.
À Gourdon, 104.8.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Les mineurs isolés au cœur du message du pape pour la prochaine journée mondiale des migrants. Mais